souvent je me sens un peu mal à l'aise ou je trouve ça un peu superficiel. Je me dis, la santé, c'est vraiment ça le plus important. Alors pour quelqu'un comme moi, qui ne tombe pas souvent malade, c'est vrai que ça ne me parle pas des masses. Parce que la santé, ça a l'air normal finalement, c'est banal. Enfin, ça, c'est ce que je pensais il y a quelques mois encore. Mais depuis quelque temps, ma vision de la santé a un peu changé. Parce que dans ma famille, on a été assez sérieusement frappés par la maladie, autant ma femme que moi-même. Et je veux dire que ça change mon rapport à la maladie. Il y a quelques semaines, Manu, quand il voyait toute la quantité de choses que j'avais à faire dans cette période un peu difficile, il m'a dit, est-ce que je peux te décharger de certaines choses dans l'église? Est-ce que tu veux que je te remplace ce dimanche où tu vas prêcher? Quand j'ai regardé le thème qui était prévu, là, je me suis dit, non, je crois que c'est pour moi celle-là. La maladie, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Peut-être ça ne nous préoccupe pas tous de la même manière, mais ça nous concerne tous. Et la guérison nous intéresse donc tous aussi. Alors, quand on pense à la guérison, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. On ne va pas être exhaustif ce matin. Par exemple, faut-il s'attendre à des guérisons miraculeuses aujourd'hui en France? Faut-il faire une différence entre une guérison miraculeuse ou plus naturelle? Pourquoi y a-t-il encore des maladies aujourd'hui? Est-ce que Jésus n'était pas censé régler tout ça? Est-ce qu'il n'a pas fini son travail? Est-ce que la maladie, c'est une question, c'est lié à un problème de péché? Quel est le rôle de la foi dans la guérison? Est-ce que c'est un manque de foi que d'aller consulter le médecin ou prendre des médicaments? Est-ce qu'il faut chercher à trouver une utilité à la maladie? Alors, on va essayer de donner quelques pistes de réflexion à ces questions, mais avant d'arriver là, on a un texte intéressant qui nous parle d'un épisode de guérison et qui nous donne même une explication à cette guérison. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de démarrer une nouvelle série de messages sur le livre des Actes des Apôtres. Alors, ce livre, c'est un peu le deuxième volume de deux livres écrits par l'évangéliste Luc. Donc, dans son premier livre, l'Évangile de Luc, Luc raconte avec un souci un peu journalistique. Il a rassemblé des faits, il a essayé de tracer ça de manière claire, précise, fiable, tous les événements de la vie de Jésus et son ministère. Et dans ce deuxième volume, que sont les Actes des Apôtres, il raconte le démarrage de l'Église. Alors les apôtres, dont parle le livre des Actes, c'était les disciples de Jésus les plus proches qu'il a envoyés avec cette mission de démarrer l'Église. C'est à eux qu'il a donné cette mission. Allez donc dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, faites des disciples parmi tous les peuples selon la traduction, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, si vous êtes perspicace, vous vous direz, mais c'est quand même bizarre de commencer une série sur le livre des Actes en commençant avec le chapitre 3. Qu'est-ce qu'on fait avec les chapitres 1 et 2? Et bien pour cela, il faudra revenir le 20 mai, puisque ça parle de la Pentecôte, et donc c'est le thème qui sera traité lors du dimanche de Pentecôte. Donc patientez un peu. Mais c'est important d'avoir en tête que, avant le texte qu'on va voir aujourd'hui, le contexte, c'est que juste avant, il y a eu cette Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples avec grand fracas, qui se sont mis à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, et que, suite à un long discours, l'apôtre Pierre a pu expliquer que c'était le Saint-Esprit que Dieu avait envoyé et que c'était la suite logique de la venue de Jésus-Christ qui était venu établir un nouveau royaume. Waouh! acteurs principaux des apôtres se rendent au temple pour la prière, comme le faisaient les juifs pieux de l'époque. Et on a un troisième personnage dans l'histoire, dont on ne connaît pas le nom, mais qui est très important. C'est un boiteux qui vient tous les jours au temple, on le dépose pour qu'il demande l'aumône. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, une scène tout à fait normale. C'est la suite qu'il est moins. L'histoire bascule quand ces personnages se rencontrent. Et au verset 4 et 5, il y a un jeu de regard intéressant. Comme pour dire, attention, il va se passer quelque chose. Les apôtres fixent leur regard sur ce mendiant, ce que peu de gens devaient faire. Et ils lui demandent de les regarder, eux. Et c'est ce qu'il fait, attentivement même. Alors que lui, il s'attendait à recevoir l'aumône, peut-être qu'il se disait, waouh, là j'ai peut-être des bons clients, vont peut-être me donner plus que d'habitude. Il doit être surpris quand il a entendu la réponse de Pierre, je n'ai ni argent ni or. Est-ce que Pierre lui donne ? C'est un ordre. Lève-toi et marche ! Non, il ne s'attendait pas à ça. Et c'est ensuite que s'en est suivie une guérison miraculeuse. Alors, suite à cela, les gens qui étaient là autour, il y avait du monde au temple, c'était grand le temple, étaient vraiment stupéfaits. Rempli de stupeur et de crainte, pour prendre un des termes qu'il a utilisé. Et donc, Pierre se lance dans un discours pour expliquer ce qui s'est passé. Ça nous rappelle un peu ce qui s'était passé à la Pentecôte. Lui, pareil, il avait pris la parole pour donner des explications. Et donc, dans ce discours, il explique rapidement que ce ne sont pas eux, Pierre et Jean, qui ont accompli un miracle en guérissant cet homme, mais que c'est Dieu lui-même qui est intervenu. Et il fait directement la transition avec Jésus. Jésus lui-même avait accompli de tels miracles quand il était sur terre. Et donc, Pierre fait le rapprochement tout de suite. Il explique que Jésus était le Messie, celui qui était annoncé par les prophètes. Et ensuite, il n'hésite pas à accuser les Juifs qui étaient là de la mort de Jésus. Il leur dit qu'ils sont responsables. Et on verra probablement dimanche prochain dans le message qui fait la suite, le chapitre 4, qu'il y a eu deux conséquences immédiates à ce discours de Pierre. Une conséquence négative, c'est qu'il a été arrêté par la police du temple et qu'il a dû comparaître devant les autorités religieuses. Et une conséquence positive, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. On est déjà plus de 2000 de plus après la Pentecôte. Alors, maintenant, on va voir plusieurs choses qu'on peut remarquer dans ce texte pour en tirer quelques leçons. La première, c'est qu'on a bien affaire à une guérison miraculeuse. Et ce qui le caractérise le plus, c'est que c'est à la fois spectaculaire et il y a une dimension spirituelle derrière. On peut noter en particulier la soudaineté de cette guérison. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il sautait de joie et louait Dieu. C'est radical. L'autre chose qu'on peut noter, c'est que c'était réalisé sans trucage. C'est pas un acteur qui est venu juste pour les besoins de l'exercice et se lever alors qu'il n'avait rien. Non, c'était un infirme que tout le monde connaissait, que tout le monde avait l'habitude de voir là. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. Deuxième chose, cette guérison n'avait pas juste un intérêt médical. D'ailleurs, contrairement à notre mentalité occidentale moderne, dans les temps bibliques, il n'y avait pas vraiment de dissociation nette qui était faite entre les maladies et les causes sociales, spirituelles, religieuses. Alors, attirer l'attention des gens qui étaient là et de les rendre attentifs à ce message capital de l'Évangile. Quatrième chose que j'aimerais remarquer, c'est le fait que cette guérison est au nom de Jésus. C'est ce que Pierre dit au boiteux et qu'il explique aussi aux gens autour. Alors, ça veut dire quoi au nom de Jésus ? Alors, ce n'est pas une formule magique qu'on dit pour qu'une prière se réalise. C'est que, en disant cela, que cette guérison a été faite au nom de Jésus. Il dit que c'est par la puissance de Jésus, c'est par l'autorité de Jésus que cette guérison a eu lieu. Donc, j'allais dire, il rend à César ce qui est à lui, ici à Jésus. Cinquième point, on a affaire à une guérison par la foi. C'est ce que Pierre disait dans son explication. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison. De quelle foi s'agit-il ? La foi des apôtres. Il en fallait du culot pour oser demander à un boiteux de se lever en disant « Mais qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne marche pas ?» Non, ils étaient sûrs. Il y avait de la foi. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme la force de se tenir debout. Donc il attribue vraiment cette guérison à cette foi. Alors, sûrement que la foi du boiteux a aussi été mise en action. Il a quand même accepté de tendre la main, de se lever et de marcher. Il aurait pu leur rire au nez, ou avoir peur d'être déçu et de ne pas oser. Donc sa foi a quand même été engagée. Dernier point, et sans rentrer dans les détails, ce qui est intéressant, et Pierre insiste beaucoup dessus dans son discours, c'est que on a ici l'accomplissement, en tout cas quand Pierre parle de Jésus, il parle de l'accomplissement de nombreuses prophéties. J'ai relevé non moins de 7 références à l'Ancien Testament. Tout le monde a eu droit à Abraham, Moïse, Samuel, les prophètes, le serviteur souffrant d'Ésaïe. Les guérisons font partie des signes qui accompagnaient déjà l'ère messianique. C'est-à-dire que les Juifs qui s'attendaient à l'arrivée d'un Messie qui allait venir les délivrer, ils s'attendaient à ce qu'il accomplisse des guérisons. Donc, quelque part, le fait que Jésus fasse des guérisons, que ses apôtres aient encore des guérisons, ça voulait dire quelque chose pour les Juifs de l'époque. C'est, on est dans l'ère messianique. J'y reviendrai un peu plus tard. Maintenant, on a vu ce que le texte va nous apprendre. On va essayer de répondre en quelques mots aux questions que j'ai soulevées tout à l'heure. La première, c'est faut-il s'attendre à des guérisons miraculeuses encore aujourd'hui ? Alors, j'ai envie de répondre à cette question en répondant plutôt à la question inverse. Y a-t-il une raison pour laquelle Dieu ne pourrait plus guérir miraculeusement aujourd'hui ? Non. Ce qui est clair, c'est que Dieu n'a pas changé. Il n'est pas moins puissant, il n'est pas moins aimant que ce qu'il était à l'époque. Un chrétien ne devrait pas se laisser surprendre en constatant une guérison miraculeuse. Quelque part, on ne devrait pas se dire « Ouais, c'est normal, Dieu est tout puissant, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse plus le faire aujourd'hui. » Alors certes, la quantité de miracles, de guérisons miraculeuses n'a pas été toujours constante dans l'histoire de l'humanité, même dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des périodes où il y en a eu plus que d'autres, en particulier pendant le ministère de Jésus, pendant les actes des apôtres. Mais ce n'est pas pour autant qu'après, Dieu n'a rien fait. Et on a régulièrement des témoignages de gens qui ont été guéris miraculeusement. Moi, j'en connais plusieurs, personnellement, même dans cette Église. Donc, Dieu agit encore aujourd'hui par des miracles. Alors, certes, il y a aussi des charlatans. Il y en a qui aiment bien faire leur beurre en faisant croire qu'ils ont un super don de guérison et eux, ils embauchent des acteurs, contrairement à ce boiteux. Mais il ne faut pas avoir des charlatans partout. En tout cas, ne sous-estimons pas la puissance de Dieu ni sa volonté d'intervenir concrètement, physiquement, y compris de manière miraculeuse. Deuxième question. Faut-il faire une différence entre des guérisons miraculeuses et des sûr, quelque chose qui est juste hautement improbable. Et peut-être que quelque chose qui était considéré comme miraculeux hier s'explique aujourd'hui avec les découvertes qu'on a faites scientifiques. Alors, j'ai pas envie de me lancer dans un débat interminable pour définir cette limite. J'ai surtout envie de dire qu'il ne faut pas faire de distinction entre, qu'il n'y a pas forcément besoin d'opposer les deux, parce que dans tous les cas, c'est Dieu qui est le maître de la guérison. C'est Dieu qui opère des guérisons miraculeuses, comme dans le texte, mais les guérisons naturelles, c'est aussi à lui qu'on doit les attribuer. Il était connu par les Juifs comme le Dieu de la guérison. Il y avait Rapha. Et finalement, ce serait un faux débat que de chercher à opposer guérison miraculeuse et naturelle. Dans tous les cas, on doit s'attendre à Dieu et lui rendre gloire. Troisième question. Pourquoi y a-t-il encore des maladies aujourd'hui? Jésus n'était-il pas censé toutes les éradiquer? Est-ce qu'il n'a pas fini son travail tout à fait? Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, j'avais fait des camps d'évangélisation, on faisait des sondages dans les rues, et il y avait une question, c'était, si vous vous retrouviez face à face avec Dieu, qu'est-ce que vous lui demanderiez, qu'est-ce que vous lui diriez? Et cette question-là était la question qui revenait largement le plus souvent. Et avant d'y répondre, j'ai envie de soulever quelques présupposés qu'on a quand on pose ce genre de questions. Le premier, c'est que la maladie et la souffrance de manière plus générale est quelque chose qui nous semble anormal, qui nous choque, j'ai envie de dire à juste titre. Et donc, il faut l'éradiquer. Et donc, s'il existe un être tout-puissant et aimant, eh ben, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas ça, ce qu'on attend, qu'il éradique le problème de la maladie et de la souffrance. Alors souvent, je trouve qu'on a une vision de Dieu comme un génie dans la lampe. On frotte un peu la lampe, il apparaît, et on a le droit de faire 3 vœux, et hop, pouf, il se produit tout de suite. C'est peut-être aussi une mentalité micro-ondes, où ça marche super vite. Mais je pense que Dieu n'est pas un génie dans la lampe. Il y a plus que ça. Alors, pourtant, quand on regarde tous les miracles que Jésus a accomplis, on peut se dire, bah, c'était quand même bien parti, là. Il en a fait. Guérison. Alors, est-ce que Jésus n'a pas fini son travail? J'ai envie de dire oui et non. Non, il n'a pas tout fait dans le sens où il reste encore des maladies, il reste encore des souffrances, et en lui-même a bien souffert. Mais par contre, il a réglé le problème de la souffrance en réglant la cause de la souffrance. Et c'est ce que je vais voir en répondant à la question suivante, quelle est cette cause de la souffrance. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces miracles qui se sont accomplis, en fait, c'est un avant-goût de ce qui nous attend à la fin des temps. C'est un avant-goût la question du lien entre le péché et la maladie peut se poser aussi de manière au niveau microscopique, c'est-à-dire à chaque maladie on peut se poser la question, à chaque péché on peut se poser la question. Et dans la pensée juive, souvent il y avait cette idée que si tu souffres, c'est qu'il y a sûrement une cause. Si tu as peut-être péché, il faut que tu te repentes. C'est ce qu'on voit par exemple dans le récit de Job, où les amis de Job qui veulent l'encourager, ils lui disent « Mais cherche bien, est-ce que tu n'as pas un péché à te repentir pour être guéri ?» Et les disciples de Jésus eux-mêmes, quand ils ont vu un aveugle de naissance, ils lui disent « Mais qui c'est qui a péché pour qu'il soit aveugle? Est-ce que c'est lui-même ou ses parents ?» Et Jésus leur disait « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Une autre raison. Donc, que ce soit dans l'épilogue du livre de Job, ou ici ce qu'on vient de lire, on voit qu'il n'y a pas nécessairement et systématiquement un lien de cause à effet entre un péché et une maladie. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on cherche systématiquement une cause spirituelle à une maladie. En revanche, il y a certains cas où ça peut être assez évident qu'une pratique qui est associée à un péché va avoir des conséquences directes dans notre corps. Donc, ça existe aussi. C'est juste que le lien de cause à effet n'est pas systématique. Question suivante. Quel est le rôle de la foi dans la guérison? On a vu que c'était important ici dans notre texte. Je rappelle encore le verset. C'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez, que vous connaissez, la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Et de même, l'apôtre Jacques, dans les recommandations finales qu'il donne dans son épître, dit que la prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière, il y a quand même un petit côté irrationnel qui nous dépasse dans la prière. Et quand on prie, ça met en œuvre notre foi, puisqu'on croit que Dieu nous écoute, et on croit même que ce qu'on demande, ou ce qu'on lui dit, va avoir un impact, que Dieu va répondre d'une manière ou d'une autre. Et donc, être guéri par la foi, ça peut aussi nous paraître bizarre, parce que la dimension de la foi, envie de l'opposer à ce qui est scientifique comme la médecine. Et en fait, il faut avouer que c'est assez humiliant de se dire qu'on doit pas seulement se fier à ce qu'on comprend, mais aussi à ce qu'on ne comprend pas. À la foi, c'est quelque chose d'humiliant, la foi. Alors, juste une petite anecdote. Avant qu'elle ne se fasse opérer, le chirurgien lui avait dit qu'il fallait qu'elle croie qu'elle allait guérir. Que c'était très important pour que l'opération réussisse. Médecin, c'est intéressant. Question suivante. Est-ce que c'est un manque de foi que d'aller consulter un médecin ou de prendre des médicaments? C'est un discours que vous risquez d'entendre dans la bouche de certains chrétiens, ou qui est juste sous-jacent dans la pensée de certains. Mais si on part du principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est Dieu qui est à l'origine de la guérison, que ce soit avec ou sans l'intervention d'un médecin, avec ou sans médicaments, il n'y a pas de mal à bénéficier de ce que la médecine peut proposer, peut apporter. Et si on considère que les médecins ont pu découvrir des choses par la grâce générale de Dieu, ce serait presque un mépris de la grâce de Dieu que de refuser d'aller se faire soigner humainement. Alors, on peut quand même comprendre ceux qui raisonnent comme cela, dans le sens il peut y avoir une attitude excessive inverse en disant « Moi, je veux me faire soigner uniquement, je ne veux me confier qu'en la médecine parce que je rejette l'existence de Dieu, je rejette le pouvoir de Dieu ou quoi que ce soit. » Donc là, il peut y avoir une attitude de défiance. Mais on n'a pas besoin d'être là-dedans pour aller prendre des médicaments et voir un médecin. Les deux ne s'opposent pas. En résumé, si nous sommes malades, prions et consultons un médecin en demandant à Dieu de lui donner le discernement pour avoir le bon traitement et pour qu'il fonctionne. Dernière question. Est-ce qu'il faut chercher à trouver pense que oui, je te guéris tout de suite. Cette maladie a une utilité. L'écrivain anglais C.S. Lewis écrivait que la souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde engourdi. Et c'est donc une manière par laquelle parfois Dieu peut nous parler. Parfois des épreuves peuvent être des opportunités. Ça peut nous apprendre par exemple à mieux compatir avec d'autres. Et je vous ai parlé de moi tout à l'heure en introduction. Je vois que mon rapport à la maladie des autres a complètement changé depuis que je suis touché moi-même. Ça peut donner des nouveaux contacts. Ça peut donner des occasions de témoigner de Dieu. Et on a été frappé plusieurs par le témoignage de Marie-Christine qui nous a parlé de sa maladie et qui lui disait que ça lui ouvrait des portes pour parler avec de personnes atteintes de cancer du sein parce qu'elle comprenait, elle faisait partie de la famille des roses. Dans certains cas, on peut donc aussi chercher une utilité à nos épreuves, en particulier à nos maladies. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter cette hypothèse qu'il y ait une utilité? Est-ce qu'on est prêt surtout à laisser Dieu nous parler pendant qu'on est dans l'épreuve? Une autre attitude, c'est de dire « Tant que je ne suis pas guéri, je ne veux pas entendre parler de toi, hein, t'es mal placé pour me parler. » C'est un peu caricatural. Mais peut-être qu'on peut être dans cette attitude-là. Avant d'être guéri, on peut aussi être dans l'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Est-ce qu'on est prêt à être comme des rosiers qui doivent être parfois taillés pour être beaux? On va maintenant conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Première chose, c'est que Dieu est le maître de la guérison. C'est donc à lui qu'il faut nous attendre. Qu'il agisse, que ce soit de manière miraculeuse ou naturelle. Deuxième chose, il y a un lien qui n'est pas toujours direct, mais un lien quand même entre le péché et la maladie. Troisièmement, c'est bien d'avoir en tête que Jésus est venu pour régler, pour éradiquer le problème du péché et donc de ses conséquences. La mort et son cortège de souffrance et la maladie en fait partie. Aujourd'hui, quand nous profitons d'une guérison, c'est un avant-goût de ce qui attend, j'allais dire, son peuple de manière complète et pleine à son retour. Donc, projetons-nous aussi dans cet accomplissement final qui nous attend. Et attendons son retour avec joie. Quatrième chose à retenir, c'est que Dieu peut aussi nous parler par la maladie. On ne va pas dire que les maladies sont des choses bonnes pour autant, mais quand nous sommes éprouvés, soyons d'autant plus à l'écoute de Dieu. Alors maintenant, quand on est confronté à une situation de maladie, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? J'ai envie de dire qu'il y a trois choses. Nous devons demander à Dieu. La première et peut-être la plus évidente, c'est la guérison. Si nous croyons que Dieu est le maître de la guérison, c'est bien à lui qu'il faut s'adresser pour demander à être guéri. Donc, faisons cette demande à Dieu de nous guérir. C'est lui qui peut agir dans nos corps, dans nos vies. La deuxième chose que nous pouvons demander, c'est le pardon. On a vu ce lien entre péché et maladie. Et même si la cause d'une maladie en particulier n'est pas liée forcément à un péché, c'est bien qu'on soit interpellé de manière plus générale sur le problème du péché et le fait que nous-mêmes, nous sommes tout autant coupables et responsables que ces juifs que Pierre a accusés d'être responsables de la mort de Jésus-Christ, en étant pécheurs, en s'étant opposés un jour ou l'autre à la volonté de Dieu. On est comme ces soldats qui ont flagellé Jésus et qui l'ont conduit sur la croix. Peut-être que pendant un temps d'épreuve, Dieu veut nous révéler, veut nous dévoiler un problème de péché en particulier. Est-ce que nous sommes prêts à demander pardon, à nous repentir pour cela? Troisième chose à demander, c'est le discernement. Pour comprendre, si Dieu veut nous faire passer un message, veut qu'on puisse saisir une opportunité qui découlerait de cette situation de maladie. Alors, ce matin, peut-être que avec ces trois choses que j'ai énumérées. Peut-être que tu passes par une épreuve qui n'est pas strictement médicale, mais qui mériterait quand même une guérison, que ce soit une guérison relationnelle, matérielle, spirituelle. Peut-être que tu veux aussi être dans cette démarche-là, demander à Dieu de te délivrer. Donc ce matin, pour, j'allais dire, matérialiser cette demande, cette attente à Dieu pour son intervention, je vais demander à ceux qui veulent se joindre à moi dans cette prière de se lever à leur place. La prière va être affichée, je vais la prononcer au nom de chacun qui, comme moi, demande à Dieu la guérison. Et on peut vraiment avoir un temps où on s'attend à Dieu. Donc, si vous êtes dans ce cas, que vous voulez demander à Dieu d'intervenir, je vous invite à vous lever maintenant. Et vous pouvez prononcer cette prière dans votre tête, dans vos pensées, pendant que je la prononce à voix haute. Père éternel, je reconnais que c'est toi le Dieu de la guérison. Je viens à toi pour implorer ta guérison. Tu connais ma situation, ma maladie, ma souffrance, mon ras-le-bol. Je te demande d'intervenir dans ma vie, dans mon corps. Je sais que tu peux me guérir, que cela soit de manière miraculeuse ou naturelle, spectaculaire ou discrète, rapide ou lente. Mais je t'en prie, accorde-moi ta guérison. Seigneur Jésus, je veux te remercier car tu as assumé jusqu'au bout ta mission. Tu es le Messie tant attendu, venu pour délivrer son peuple. Merci parce que cette délivrance n'est pas juste politique ou ni même physique. Oui, tu as accompli des miracles concrets pour guérir des malades. Et surtout, tu as remporté une victoire décisive sur le péché et la mort. Je reconnais que je fais partie de ces pécheurs qui sont responsables de ta mort à la croix. Je te demande pardon pour chacun de mes actes ou pensées qui t'ont déshonoré. Saint-Esprit, merci parce que tu es à l'œuvre en moi, que tu agis. Je te demande de m'aider à discerner ce qui, dans cette épreuve, peut m'enseigner, m'édifier, m'équiper pour ton service. Seigneur, je veux que chaque chose puisse être à ta gloire, quelle que soit la manière